l'Éternel, Baba wa milele. Ce n'est pas un père qui les soutiendra un jour et qui disparaîtra un autre moment. Ce n'est pas un père qui m'accompagnera un jour et qui disparaîtra un autre moment. Mon père qui m'a enfanté dans ce monde, il ne sait plus que ce que je suis devenu derrière lui. Mais le Baba wa milele, l'Éternel des armées, ce n'est pas un père qui me prend la main un jour et qui me lâche la main un autre jour. C'est le Baba wa milele. Il est avec moi éternellement. Il a choisi d'être avec l'Église, être avec ses serviteurs, être avec son peuple. Il a choisi. Et c'est à nous de bénéficier de ton éternité au milieu de nous. C'est à nous de bénéficier. Et c'est nous qui bénéficions. Et c'est nous qui t'adorons. C'est nous qui te louons. C'est nous qui te célébrons. C'est nous qui te manifestons notre reconnaissance. Ce que nous avons reçu de toi est énorme. Ce que nous vivons, ce que nous recevons, ce que nous profitons, ce dont nous profitons, ce dont nous héritons de ta part est énorme. Merci Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te répartir. Tu n'es pas un homme pour mourir, ni un fils d'homme pour disparaître. Toi, tu restes avec nous. Alléluia. À la montagne, tu es avec nous. Dans la vallée, tu es avec nous. Dans les plaines, tu es avec nous. Dans les larmes, tu es avec nous. Dans les épreuves, tu es avec nous. Dans les dangers, tu es avec nous. Merci Seigneur. Tu es digne d'être adoré par ton peuple. Tu es digne d'être célébré par ceux qui se reconnaissent, enfants et peuple de Dieu. Tu es digne d'être célébré, d'être rendu célèbre. Voilà ce que ça veut dire. Être célébré, être rendu célèbre, être rendu réputé, être rendu fameux dans notre génération. Merci notre Dieu. À toi toute la gloire. Merci notre Dieu. Alléluia. En tout cas, les soyez-les-fois, allez dire, Baba, oui, comme il est, là. Est-ce que ton Dieu à toi, ton Père à toi, il est éternel? S'il n'est pas éternel, laisse-le, viens ici. Baba, ou Amilele. Je ne sais pas ce que ça vous fait, je vous assure. Et pour la plupart, ils ne connaissent que Baba Amilele, alors ils ne peuvent pas aller avec d'autres variantes. Baba Amilele, Baba Ohuma, Baba Owezo, Baba Oshindi, Baba Omapendo, Baba Omadjabu, Baba, Baba, Baba. Vous allez dans tout ça, vous entrez, vous sortez, vous revenez. Vous serez ma Baba Amilele. Amilele, c'est bon, mais Amilele en comment? Parce qu'on peut être Amilele, mais mauvais. Mais il est Amilele en bon. Alléluia. Baba Amilele. Nous vous bénissons le Seigneur notre Dieu, dont les bontés se renouvellent chaque matin, afin qu'aucune génération ne les trouve vieux. Ça, j'ai compris ce matin. Que ces bontés se renouvellent chaque matin. La raison, c'est qu'aucune génération ne les trouvera vieux, épuisés, usés. Non. Que les hommes, quand j'étais, notre Dieu ne peut pas dire quand j'étais. Et d'ailleurs, il ne connaît pas le passé. Et il ne connaît pas le futur. Il est au présent. Avant qu'Abraham, votre père, ne fût. Parce que les hommes furent. Les hommes furent. Les hommes seront. Mais lui, avant que votre père, Abraham, ne fût, moi, je suis. Et il a vu mon jour. Merci, Seigneur. C'est tout ce qui nous donne la force d'être là. Quand nous l'appelons Baba, c'est que nous sommes, hein? Et il a voulu vérifier en disant, êtes-vous enfant de Dieu? Venez. C'est justement pour cela que vous êtes venus prier et plus nombreux que jamais avant. Et ce n'est pas seulement la bonne maladie. C'est tous nos frères et sœurs de la ville. Beaucoup sont venus prier avec nous. Quelqu'un a posé la question, il dit, ah, mais beaucoup qui nous la bonne. Tu pries à la bonne maintenant? Il dit, non, moi je ne prie pas à la bonne. Je suis enfant de Dieu. Et Dieu nous a dit, et pour vous, enfant de Dieu, j'ai dit oui. Il a dit, venez prier. C'est pourquoi je suis venu prier. Dès que je termine, c'est moi ici. La zone est en l'assemblée. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et pour vous, enfant de Dieu, venez prier. Le Seigneur nous a convoqués pour quelque chose. Et priez, pleurez avec moi devant le Seigneur. Dit, la convocation est solennelle. Et l'exécution a été à la hauteur.
Maintenant, qu'est-ce que nous attendons? Lui nous appelle, venez prier, et nous sommes venus prier. Nous attendons quoi? Que la poupée là soit délogée de notre domaine. Parce qu'on ne peut pas avoir la même révélation et une partie s'accomplit et une autre partie reste. Non, ce n'est pas comme ça. C'est que comme nous sommes venus prier, c'est que vous allez vous rendre compte, la poupée sera délogée. Et ce n'est pas étonnant que nous commencions déjà à entendre des choses, comment des poupées sont délogées. Dans une famille, des gens qui gardent la maison vont se disputer entre eux. Et puis Baba dit, comme il fonde, il parle à patron, à madame. Il dit, madame, dès que vous avez et c'est tout ça là pendant février devant ta face. Eko bima. Ce qui est bimé na PTT, eko bima na makasi. Mais la poupée va laisser votre domaine. Nous ne sommes pas venus ici pour rien. Bien aimé, prenez ça au sérieux. De telle sorte que mettez certaines choses de côté, ne manquez pas un seul jour. Le Seigneur nous a appelés pour prier. Que le Seigneur vous bénisse. Toute cette semaine qui va commencer, nous parlerons de la jouissance hein, de l'héritage. Il faut que je puisse y jouir. L'héritage ne sera pas une décoration. Ce n'est pas un monument. Non, ce n'est pas quelque chose qui sera juste accroché là. Non, l'héritage s'en jouit. Il faut que, dis à ton voisin, je dois jouir. Et l'héritage dont le Seigneur parle n'est pas l'héritage du ciel. C'est l'héritage d'ici-bas. Donc ne me dites pas, oui, tu vas jouir, mais au ciel. Parce que les hommes aiment renvoyer au ciel. Marie dit, ouais, il va ressusciter au dernier jour. Pourquoi vous renvoyez toujours les choses au dernier jour au ciel? Jésus dit, non, ce n'est pas une question au dernier jour. Maintenant même là, il va ressusciter. Il y a des choses de maintenant, et il y a des choses hein, de là-bas. Il y a des choses d'ici et des choses de là-bas. Bien aimé, les choses d'ici, ne les envoyez pas là-bas. Je dois jouir. La poupée doit dégager. Je sais que cette expression est entrée dans les prières, dans les cœurs de tout le monde. Merci Seigneur. Amen. Je disais que la louange d'adoration me laisse un peu plus de temps. Je ne sais pas qui a commencé à dégrainer avant. C'était d'abord Coco, il a dégrainé. Et puis c'était devenu le tour de moi qui a dégrainé. La petite logique, ça va on va dégrainer pour que tout ça les belle. Allez pas dégrainer. Parce que la prière d'ouverture était longue. Tout le monde a dégrainé aujourd'hui. Alors, imaginez que moi je suis papa et ils sont des enfants. Quand un enfant dégraine comme ça, papa dégraine comment? Comme ça. Alors, c'est comme ça que ça se passe dans les maisons. Le morceau de papa est toujours grand. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je suis content que vous soyez là et que vous compreniez que Dieu vous compte comme ses enfants et qu'il vous a appelé à un programme. À vous de vous prendre au sérieux comme Dieu vous a pris. Au sérieux, Dieu nous a pris au sérieux. Alors prenez-vous vous-même au sérieux. Mais si tu te déclasses toi-même, tu n'es pas enfant et aujourd'hui tu viens, demain tu ne viens pas. Après demain tu viens, après demain tu ne viens pas. Tu ne comprends pas, tu ne t'es pas pris au sérieux. Dieu nous a pris au sérieux. Merci Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, numéro combien? 64. Notre Père qui es aux cieux, 64. Matthieu chapitre 6, le verset 9 à 12. Lisons tous ensemble et nous allons, je vais lire au verset 12e, nous lirons tous ensemble. On n'a pas toujours assez de temps, on a toujours beaucoup de choses à dire. Peu importe, là on s'arrête, que Dieu nous aide. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre combien? 6, du verset 9 au verset. Le 12e. Il est dit, voici donc comment vous devez prier. C'est Dieu qui nous montre comment prier. Alléluia. Bien-aimé, si c'est lui à qui tu adresses la prière, il te dit déjà que moi à qui tu adresses ta demande, voilà comment on me demande. Et puis tu es tout. Comment ça? On appelle ça quoi en examen d'état? Bien sûr. Vous savez que les élèves intelligents, non, les élèves bouliques. Même quand vous lui donnez des réponses, il dit, et dans la page 13, il peut ouvrir la page 13. Comme il est boulique, il ne sait même pas la réponse de tout le monde. Donc, ceux qui trichent sont des élèves hein, intelligents. Je dis, je sais que ça y est là, je vois même ça.
Bon, est-ce que c'est bon pour les enfants de Dieu?
Non.
Mais pour tricher, il faut être un. Dieu nous donne une fuite, vraiment une fuite vraie. Et vous avez demandé comment prier. Parce que vous allez me prier. Ok, moi, si vous allez prier, je vous dis, voici comment vous devez prier. Celui à qui tu vas demander, te dit comment on lui demande. Et puis tu demandes, tu échoues. Comment beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas exaucés? Je ne comprends pas. Pourquoi tu peux vivre toute la vie, tu n'es pas exaucé? Tu n'as pas une seule réponse, non, un seul aspect de ta vie. Et toi-même et tes voisins, vous voyez que cet aspect ici ne peut être que l'action de Dieu. Dans ta vie, il n'y en a pas. La religiosité, tu es là, on te reconnaît enfant de Dieu. Comme ça, tu vas à l'église, tu reviens, vous êtes né dans la famille chrétienne, entre guillemets, et puis vous êtes habitué à l'église. Ce n'est pas ça qui te marque. De toutes les façons, ça devient de plus en plus lourd, parce que ça t'a été inculqué, et tu n'en trouves pas ton compte. Mais les jours où toi-même, tu les rencontres, et que tu as quelque chose dans lequel il n'y a aucune intelligence humaine, le Seigneur a besoin des choses comme ça. Non, le Seigneur veut faire des choses comme ça. Il sait que chacun de nous en a besoin. Des choses dans lesquelles tu ne peux pas trouver la présence humaine dedans. Tu ne peux pas trouver. Tu sais toi-même que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon patron, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma voisine. Ce n'est pas un ami. Ça là, je sais, c'est Dieu. Avec ça, bien-aimé, tu iras très loin. Même quand le vent soufflera, tu auras des racines pour dire, je sais ce qu'il a fait, il le fera. Comment tu peux échouer après que le Seigneur lui-même t'ait donné des réponses? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12, tous ensemble à haute voix. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Bénis ta parole et qu'elle soit puissante pour donner la vie à un homme. Celui qui en parle en a besoin. C'est dans la parole qu'il a trouvé le pardon qui le garde et qui le garde devant, qui le gardera encore devant toi. Qu'il en soit fort, Seigneur, afin que cette parole atteigne notre Dieu, les hommes des zones reculées, des cœurs complètement oblitérés, des oreilles bouchées, afin de les déboucher et de leur donner d'accéder au Seigneur. Car pour accéder au Seigneur, il faut une révélation qui s'obtient par ta grâce. Moi, je ne peux pas accorder ça, mais toi, oui. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Nous applaudissons en acclamant. Nous acclamons en applaudissant le Seigneur et sa parole. Tu nous as fait tellement de bien et nous bénissons ton nom. À toi toute la gloire. Nous t'aimons, Seigneur, notre Dieu. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur vous parle. Merci, Jésus. La grande section, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça la grande section, n'est-ce pas? Nous avons déjà terminé la section. Toutes les sections qui sont avant là, notre Père qui est aux cieux, nous avions d'abord, voici comment vous devez prier. Ça nous a beaucoup béni. Notre Père qui est aux cieux, c'est une section à part. Que ton nom soit sanctifié. Une section, ça a été développé. C'est pourquoi nous sommes au verset au chapitre numéro 64. Notre Père qui est aux cieux a été développé en plusieurs messages. Que ton nom soit sanctifié, développé en plusieurs messages. Que ton règne vienne, développé en plusieurs messages. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, développé en plusieurs messages. Tous ces messages sont là sur YouTube et sont là, vous pouvez les procurer de plusieurs manières en attendant que nous travaillions plus tard pour en faire des livres et des livres. Car Dieu nous a bénis pour que la nature en soit bénie. Voilà. Alors nous sommes arrivés à une section qui a vraiment intéressé sur le plan vécu quotidien sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est une section qui a touché l'homme dans tous ses états. Dieu connaît nos besoins. Nous avons été là. Et après avoir terminé cette section-là, nous avons commencé l'autre grande section. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une grande section et cette section nous a proposé les grandes lignes, et dans les grandes lignes se trouvent les autres sous-lignes que nous allons avoir.
des grandes lignes, des grandes pensées, il y a aussi des sous-pensées que nous allons avoir. Le but, c'est que nous puissions découvrir qu'est-ce que le Seigneur a voulu vraiment dire quand il a dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». C'est un concentré, c'est quelque chose de très bien synthétisé, de très bien, comment, très bien résumé en bloc. À vous d'avoir l'esprit qu'il a animé pour découvrir les différents coins que le Seigneur. Et quand un enfant de Dieu découvre comme ça, il mettra la parole de Dieu en pratique et la destruction ne sera pas sur son chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des études profondes, que le Seigneur vous bénisse. Écrivez et retenez. Évidemment, pendant, après le mois de février, tout ce que nous avons comme question, nous pourrons les poser le mercredi, et ça vous savez, après le mois de prière. Donc, la grande section, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nous a proposé. Nous avions quoi? Qu'est-ce que nous avions comme une grande ligne là-bas? Nous a proposé quoi? Les offenses des enfants. Nous a proposé quoi? Les péchés des autres. Nous a proposé quoi d'autre? La raison de pardonner. Donc là, vous comprenez tous que la raison de pardonner, on n'a même pas encore touché. Il y a une raison de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, accroche-toi ici, nous te dirons pourquoi tu es obligé, je suis obligé de pardonner. Et pourquoi je suis obligé d'être pardonné? C'est le seul moyen pour passer, être pardonné d'en haut et pardonné d'en bas. Nous en avons besoin. Pardonner, hein, être pardonné d'en haut, être pardonné en bas. Nous allons les voir. Donc, ce sont les trois grandes pensées qui nous sont données dans cette grande section. Après l'étude des offenses des enfants que nous avons vues ensemble, n'est-ce pas? Après l'étude des offenses des enfants, nous devions passer à quoi? Au péché des autres. Après l'étude des offenses des enfants, nous avons déjà entamé celle des péchés des autres, c'est-à-dire celle, c'est-à-dire l'étude des péchés des autres. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième message de cette étude, le péché des autres. Nous étions posé la question rapidement. Nous avions dit, avant de nous poser des questions, nous avions dit qui était, nous avons cherché à savoir qui était l'autre. Et nous avons dit que c'était lui qui n'est pas moi, et autre. Au singulier, autre. Et celui qui n'est pas nous, et sont autres, au pluriel. Ceux qui ne sont pas nous, sont autres. Celui qui n'est pas moi, est autre. Autrement dit, sur la terre des vivants, il n'y a pas que moi. Si quelqu'un ne voit les choses autour de lui, que lui, le monde ne tourne qu'autour de lui, bien aimé, s'il n'y a que vous, vous faites erreur, vous allez souffrir sur la terre. Dieu n'a pas que vous. Dieu a aussi l'autre et les autres. Dieu n'a pas que moi. Dieu n'a pas que toi. Tu ne peux pas dire soit c'est moi, soit c'est rien. Non! Il y a les autres dans la société. Il y a les autres dans la province, dans le pays. Dans la province, il y a les autres. Dans la ville, il y a les autres. Dans l'église, il y a les autres. Si tu prêches, les autres aussi prêcheront. Si tu pries, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui prie. Si tu aimes Dieu, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'aime. Si tu crains Dieu, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui craint Dieu. Si tu peux trébucher, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut trébucher. Si tu es dans les besoins, c'est que quelqu'un d'autre aussi peut être dans les besoins. Si tu as besoin de monter, c'est que quelqu'un d'autre aussi a besoin de monter. Il n'y a pas que toi qui dois monter. Il n'y a pas que toi qui dois avancer. Quelqu'un d'autre a besoin d'avancer. Alors, si tu as besoin qu'on te facilite la tâche pour monter ou pour avancer, facilite la tâche à quelqu'un d'autre, aux autres de monter. Tu ne peux pas vouloir que devant toi, la route soit balisée et que derrière toi, derrière les autres, devant les autres, que toi tu mettes des bâtons dans les roues ou que tu mettes les pots de bananes sur la route. Quand je parle comme ça, vous savez de quoi il s'agit. Les hommes ont handicapé la marche des autres pour qu'un seul avance. Celui qui avance seul est un minable. Vous n'avez pas compris alors. Je disais que dans n'importe quel domaine, celui qui avance seul est un
minable. Dans une église, la bonne façon de voir que cette église avance, c'est le pasteur avance et il avance avec tout le monde. Il aide tout le monde, chacun selon ce qu'il est, son appel, d'avancer. Dans une ville, quand les responsables de la ville avancent, c'est tous ces citoyens qui améliorent les conditions de vie. Dans une province, quand les citoyens, les premiers citoyens de la province avancent, c'est tous ces administrés qui doivent augmenter un niveau de vie. Dans un pays, quand un président avance, il faut que tous ces sujets, un roi avance, il faut que tous ces sujets puissent améliorer à son image. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi il est dit du meilleur des chefs, du meilleur des présidents, du meilleur des rois, du meilleur des bergers. Il est dit de lui, quand le fils de l'homme sera élevé, et puis vous restez en bas, il attirera tous les hommes en lui. J'aime Jésus, personne ne peut les garer sur la terre. Les galer sur la terre. Quand Jésus monte, et quand tu fais monter Jésus, c'est lui qui fait monter Jésus, automatiquement, Boninga, Akumata, parce que la puissance de Jésus, c'est que quand Jésus monte, il attire à lui, vers le haut. C'est pourquoi nous, comme ça, Jésus nous a tirés vers le haut. Et il n'a pas encore fini. Il continue à nous tirer vers le haut. Bien-aimé, sois tiré. Élève Jésus et il t'élèvera. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. Quand vous l'abandonnez, il vous abandonne. Dieu honore ceux qui l'honorent. Ce sont les mêmes paroles, non? Dieu honore ceux qui l'honorent. Autrement dit, Dieu élève ceux qui l'élèvent. Tu n'élèves pas Jésus, il n'a pas de place ni dans ton cœur, ni dans ta vie, ni dans ta famille, ni dans ton travail, ni dans tes avoirs. Jésus n'a pas de place. Mais tu veux prier, pasteur, prier pour moi que Dieu m'élève. Il ne peut pas t'élever, ce n'est pas la prière du pasteur qui élève les hommes. Jésus sait qu'il élève. Si c'est un petit jeune homme qui l'élève, demain, préparez-vous à le voir élever. Merci Seigneur. Il y a les autres. Celui qui n'est pas moi est autre. Et celui qui est ceux qui ne sont pas nous sont autres. La question maintenant était, comment nous comportons-nous face au péché des autres? Ça, c'est le nez, le problème. Comment nous comportons-nous face au péché des autres? On ne dit pas face à nos péchés. Parce qu'à nos péchés, nous savons comment nous nous comportons. On n'aimerait pas que quelqu'un sache. On n'aimerait pas que quelqu'un sache. Vraiment, non, vraiment, ne faites pas comme ça, vraiment. Ne soyez pas plus vraiment juste. On n'aimerait pas que quelqu'un sache, quelqu'un d'autre sache. Mais pour les autres, on aimerait que tout le monde sache, que tout le monde soit au courant. Ça, je tiendrai, je ferai un effort. Ça, c'est pour les autres. Et pourtant, la Bible est claire. Faites aux hommes ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'ils vous fassent. Tout ça, nous savons. Mais ce que nous faisons aux autres, ce que nous faisons aux autres, ce que nous faisons aux autres, comment nous comportons-nous face au péché des autres? Le péché des autres, nous l'avons déjà dit, le péché des autres sont faciles à pointer du doigt. Les péchés des autres sont faciles à pointer du doigt. Si nous sommes honnêtes devant Dieu, qui a déjà pointé les doigts sur le péché des autres? Levez la main, je vais voir. Vous avez pointé les doigts sur le péché des autres. Levez la main. Si nous sommes sincères. Ah, vous êtes enfant de Dieu? Venez prier, n'est-ce pas? On prie dans le mensonge? Non. Si vous êtes sincères, vraiment, depuis que vous avez l'âge de conscience, avant de vous convertir et après la conversion, qui a déjà pointé du doigt le péché des autres? Qui? Ah,
depuis que tu es, avant de te convertir et depuis que tu es converti, qui a déjà voulu que quelqu'un d'autre pointe du doigt son péché? Levez les doigts. Non. Je ne sais pas si vous avez vu. Ça ne peut pas nous laisser aller de l'avant. Et Jésus a raison. Quand nous verrons la raison de pardonner, Jésus est un maître exceptionnel dans sa façon de faire. C'est pourquoi il y a cette raison-là que nous allons voir plus tard. Lorsque le Seigneur dit, c'est ainsi que votre Père vous traitera si vous ne vous pardonnez pas les uns aux autres. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont compris, ont retenu, mal compris Jésus bien sûr, ont retenu. Si tu ne pardonnes pas aux autres, toi non plus tu ne seras pas pardonné. Comme si je pardonne aux autres, c'est que j'ai acheté mon propre pardon devant Jésus. Vous allez comprendre ça quand nous allons parler de ça. Ne manquez pas le dimanche. Tout le monde a déjà pointé du doigt le péché de l'autre. Mais personne ne veut que quelqu'un d'autre pointe du doigt. Ok, maintenant, qui a déjà vu quelqu'un pointer du doigt son péché? Levez les doigts. Tu as déjà vu quelqu'un te pointer, te juger quoi, hein? Voilà. Qui a déjà vu quelqu'un pointer du doigt son péché? Levez les doigts. Vous étiez content? Et toi, quand tu as pointé l'autre là, il devait être content? Tu as blessé combien? Hommes et femmes, église du Seigneur. Soit nous sommes église, soit nous sommes mutualité. L'église du Seigneur est différente de mutualité, des équipes et autres orchestres mondains. Et tout ce qu'il y a comme groupement, même des regroupements d'ordre politique, parti politique ou autre entreprise, l'église du Seigneur est différente. Pourquoi? Parce qu'à son sein se trouve le Dieu puissant. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne peut pas être au milieu de nous et nous laisser nous dresser les uns les autres. La Bible dit, si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde de peur que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Si vous vous mordez les uns les autres, c'est que vous vous préparez à être détruits les uns par les autres. La sœur que tu as mordue en pointant ton doigt sur lui, le frère que tu as mordu au travail en secret dans ton cœur, je ne sais pas quoi, tu as parlé sous forme de dé, mais ce ne t'est pas aidé. Tu voulais que quelqu'un soit au courant. Tu voulais que quelqu'un soit au courant, afin que les gens disent, sache que ce que vous pensez de lui n'est pas ce qu'il y a. Voilà, le but. Combien, après avoir pointé du doigt, nous avons détruit? Combien nous avons martyrisé, détruit, nous avons humilié? Et ils ont quitté l'église, non seulement l'église là-bas, mais Nathalie. Je parle de l'église de Jésus. Ils ont quitté la foi à cause de ton doigt. Jésus va nous montrer ce que nous disons tous, que quand tu pointes le doigt sur un homme, c'est que les quatre autres viennent vers toi. On ne peut pas pointer le doigt comme ça. On pointe toujours le doigt et les autres regardent où. Jésus va nous montrer, avant que Jésus ne nous montre ça, nous l'avons déjà vu, nous allons voir que Amon et Tyr, ils vont être dans la philosophie de pointer le doigt sur l'autre sans regarder à ce qu'ils font. Et c'est comme ça que Amon et Tyr et plusieurs autres nations païennes autour d'Israël, c'est comme ça qu'ils ont commencé à se moquer d'Israël. Lorsqu'Israël a péché contre l'Éternel, ils se sont moqués. Ha ha! Ha ha! C'est vraiment comme ça que c'est écrit. Ha ha! C'est comme ça qu'on se moque des autres. Azu. Tyr même est allé loin et dit, voilà, qu'elle se vide comme ça, qu'elle soit détruite, Jérusalem, qu'elle soit détruite comme ça, la ville sanguinaire. Ailleurs, il est ajouté comme ça. Qu'elle soit détruite comme ça pour que moi, je me remplisse. Autrement dit, que tous ceux qui allaient à Jérusalem commencent à venir hein, chez moi. Et Dieu revient pour dire, ils ne viendront pas chez toi. Parce que tu t'es moqué d'Israël, même le peu qui est chez toi, là, je vais détruire. Regardez comment, lisez Jérémie, lisez Ézéchiel, vous allez voir comment Dieu a traité son peuple et comment il a traité le peuple des autres. Parce que souvent, quand Dieu traite un homme, son serviteur ou sa servante, à sa manière, dans leur relation, dans leur alliance, Dieu les traite durement, ça donne des ailes à plusieurs personnes autour de vouloir mettre les mains dedans.
Combien de fois on va vous dire, quand un enfant de Dieu a un problème avec Dieu, ne mets pas le nez dedans. Parce que c'est toi qui seras humilié. Ça, je peux te dire. Ne pense pas que tu vas aider Dieu. Ne pense pas que Dieu va t'utiliser toi à pouvoir l'humilier. Parce que toi, tu es qui? Tu mets le nez dedans. Même Nabuchodonosor a mis le nez dedans. Qui a invité Nabuchodonosor à mettre le nez dedans? C'est Dieu. Il l'appelle même en disant, Nabuchodonosor, mon serviteur. Et Nabuchodonosor a ravagé. Ravage bien, mais il ravage en allant plus loin. La semaine où j'ai parlé, je voulais vous faire lire ce passage-là. Mais il y a tellement de choses à dire, ce n'est pas plus. Habakkuk va être fâché du Seigneur. Fâché ou déçu, désolé, consterné. Seigneur, non. Comment? Je ne te comprends pas, Seigneur. Comment tu peux utiliser un homme plus méchant pour venir corriger celui qui est quand même méchant, mais bien avec toi? Nous connaissons la vie, les stars avec tout ce qu'ils sont. Ils sont dans l'occultisme à un niveau très élevé. Ce que Israël n'est pas. Israël t'appartient, mais Israël a péché dans son humanité. Celui qui pèse contre toi, qui est ton enfant, tu vas prendre un méchant pour venir le corriger. Envoie un ange plus saint qu'Israël. Habakkuk ne comprend pas, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Il dit au Seigneur, comme Moïse a rappelé au Seigneur, Habakkuk rappelle au Seigneur. Il dit au Seigneur, c'est parce que toi tu lui donnes Israël, lui dans son zèle, il va aller sacrifier sur l'autel de son Dieu. Il dit, voilà, mon Dieu m'a donné Israël, le peuple de l'Éternel. Alors que c'est toi qui lui as donné. C'est justement pour cela que quand Dieu utilise un païen ou un autre enfant de Dieu, et que tu vois les défauts, tu vois les péchés d'un enfant de Dieu, va le voir comme Jésus a dit, avec l'intention de les sauver, toi seul. N'en parle à personne. Va le voir pour les sauver. Mais si tu mets ton nez pour te moquer, la honte qui vient après est désastreuse. Tu pensais l'aider, mais il va devenir une occasion de chute. Tu t'écraseras. Mais lui, tu le verras encore côte à côte avec son Dieu. C'est ce qui a étonné tous les pays environnants. Israël. Mais nous croyons que c'était fini. Dieu ne finit jamais. Dieu ne finit pas comme ça. À moins de dire, vous vous moquez d'Israël alors que vous êtes resté longtemps rongé par l'idolâtrie dans les temples de Malkon et de Melkath. Malkon, c'est le dieu des Ammonites. Et Melkath, c'est le dieu des Syriens. Ils ont ces dieux-là depuis toujours. Ce sont des villes païennes. Ils ont ces dieux-là. Israël n'a que l'Éternel des armées. Celui qui a l'Éternel des armées, c'est un homme qui pêche. Et les seuls qui n'ont jamais connu l'Éternel, qui n'ont que les idoles, c'est moi, tu as vu, pécheur. Et c'est ça que le Seigneur, comme je le disais tout à l'heure, les doigts que nous pointons sur l'autre là, retournent trois ou quatre vers nous. C'est ce que le Seigneur n'a pas, déjà dans l'Ancien Testament, c'est incompréhensible. Toi, tu habites avec l'idole. Moi, je suis avec l'Éternel et c'est contre l'Éternel que j'ai péché. Toi, tu es avec l'idole. Entre celui qui est avec l'idole, et celui qui est avec l'Éternel et qui a péché contre l'Éternel. Le vrai pécheur, c'est qui? Mais c'est celui qui a l'idole, parce que lui ne connaît même pas l'Éternel. Mais c'est lui qui se moque de celui qui a l'Éternel. Bien aimé, si tu connais la valeur des travaux de l'Éternel. Et la plupart des ceux qui se moquent des enfants de Dieu, ce sont ceux qui n'ont rien à voir avec Dieu. Bien aimé, est-ce que tu sais que la personne de qui tu parles de cette manière est de loin supérieure à toi? Par ta appartenance au Seigneur, des lois supérieures. Parce que toi, tu es enfoui dans le mal. Lui est avec l'Éternel des armées. Mais dans son humanité, il a chuté. Et c'est là qui donne la rage au Seigneur quand il s'élève pour défendre ses serviteurs, même en ayant péché. Nous allons le voir. Seigneur, aie pitié. Tes serviteurs te craindront. Je me battrai pour te craindre. Mais je ne compte pas sur ma crainte. Je compte sur ton amour. Cette histoire d'Amon et Tyr vont faire que, dans le Nouveau Testament, Jésus l'a enseigné. Jésus l'a condamné en enseignant ses disciples.
Jésus l'a condamné dans le Nouveau Testament en disant à ses disciples de faire attention, d'être prudent dans leur jugement. Matthieu, nous l'avons dit et vous devez le savoir. Matthieu chapitre 7, le verset 3 à 5. C'est Jésus qui parle à ses disciples pour faire attention dans leur jugement. Disciples de Jésus, vous êtes avec moi? D'accord. Disciples de Jésus, écoutez ce que notre maître nous dit en matière de jugement des autres, n'est-ce pas? Il est dit quoi? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La fois passée, les frères nous ont mis au tableau la poutre et la paille. La paille, c'est un signe comme ça, une petite brindille sèche comme ça, la paille. La poutre, c'est le gros, soit en bois, soit en métal, tout ce que nous voyons là-bas, c'est ce qu'on appelle poutre et tout ça là. Des gros trucs. Et le Seigneur Jésus te dit que les gros trucs là, c'est dans ton œil. Et la petite paille là, vous la voyez? La petite paille là est dans l'œil hein, de l'autre là. Mais toi, comme tu es tellement mauvais, méchant, toi là, c'est dit. Ah, voilà. Beaucoup n'ont pas répondu comme ça. Toi là, c'est ça, toi là, c'est lui qui dit, voilà, cette sœur là, c'est comme ça, ça doit être elle. Parce que vous écoutez la parole pour vos parents, pour vos frères, ça concerne ma femme, ça c'est vraiment mon mari, ça vraiment, c'est notre oncle là. Et toi, c'est quoi? L'autre là, c'est toi. La poutre, selon Jésus, la poutre ici est dans ton œil. Donc ça te barre tous les yeux. Tous les deux yeux. La paille là est dans l'œil de ton frère. Il voit quand même, mais ça le dérange, mais il voit quand même un peu. Mais toi, la poutre, a tout, tu es aveugle complètement. C'est l'aveugle qui a la poutre là, qui dit à son voisin, frère Jim, approche. Je vois que tu as la paille, je vais t'enlever. Pour le Seigneur, c'est quelle hypocrisie, enfant de Dieu, jusqu'à quand, jeune fille, jeune garçon, papa, maman, pourquoi vivre dans l'hypocrisie? Tu as une poutre. Elle ne t'empêche même pas de voir. Non, elle ne permet même pas de voir, voilà. Elle t'empêche de voir. Avec quel œil, quels yeux tu peux voir la paille? Et puis, la paille, plus tu es loin, plus elle est invisible. D'abord, un, l'autre est loin. Deux, toi tu as la poutre. Tu vois comment? Autrement dit, beaucoup travaillent avec les puissances des ténèbres sans savoir que le diable les utilise. Est-ce que le diable peut utiliser un enfant de Dieu pour agresser notre enfant de Dieu? Oui! Le diable a utilisé Pierre pendant un instant pour dire à Jésus, tu ne mourras pas. Jésus lui dit non. Hier, tout à l'heure, là, tu as dit des bonnes choses. C'est papa qui t'a dit ça, mon père dans les cieux, qui t'a révélé ça. Mais là, ce que tu dis maintenant, là, ce n'est pas mon père. Ça, c'est le diable. Et puis, il lui dit quoi? Arrière de moi, Satan! Pierre est resté devant lui, mais le diable qui a influencé Pierre était allé derrière. Un enfant de Dieu, s'il n'est pas prudent, le diable l'utilise pour détruire son frère, détruire sa soeur, mais il pensera qu'il est Dieu. La plupart des gens nous ont fait du mal à moi personnellement, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient Dieu qui nous aidait. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de nous enfoncer. Frères, sœurs, jusqu'à Satan. Et nous allons dans les églises, et nous sommes enfants de Dieu. Et nous allons dans les églises, et nous sommes enfants de Dieu. Mais notre vie ne change pas, ou notre vie n'est pas calquée sur la vie de Jésus, sur les paroles de Jésus. Si nous sommes disciples, alors nous n'avons que sa parole. Nous ne saurons pas la mettre en pratique mécaniquement. Nous comptons qu'elle crée la foi en nous et qu'elle nous transforme. Ne parle pas de ton frère comme l'on parle d'un ennemi, du diable. L'apôtre ne peut pas te permettre de voir, mais tu vois. Mais la paille qui peut permettre l'autre de voir, Jésus dit, ce n'est pas que ton frère n'a pas de péché. Il a le péché. Mais toi, tu as plus que lui. Donc chacun de nous devait se dire ça. Selon cette parabole de Jésus, chacun de nous devait se dire, mon frère en face là, il a un péché, que Dieu l'aide. Mais moi, j'ai plus de péché que lui. Parce que tu ne te connais pas. L'apôtre Paul dit, je sais que Jésus-Christ est venu sauver le pécheur, et il ajoute dans Moi, je suis le premier. Voilà comment un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit peut dire. L'apôtre Paul dit que Jésus est venu sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Il ne dit pas dont Pierre est le premier. D'abord, un, il a régné Jésus. Deux, un jour je l'ai vu à Antioche en train de faire l'hypocrisie. Donc, Pierre, c'est lui vraiment le vrai pécheur. Ou bien Matthieu. Matthieu a beaucoup péché, c'est un publicain. Il ne dit pas ça, il dit dont moi je suis premier. Et pourtant, Jésus avait des prostituées qu'il avait sauvées, des prostituées possédées qu'il avait sauvées. Mais, Pierre dit, Paul dit que dont moi je suis le premier. Et toi, tu es quatrième en classement du péché. C'est ton frère qui est le premier. Toi, tu es la sainte. Tu n'as jamais rien fait. Toi, tu es le saint. Selon toi, ce n'est pas la sainteté selon le Seigneur. Toi, tu es un ange. Frères et sœurs, corrigeons notre façon de voir. Car c'est pour cela que le Seigneur nous appelle. C'est pour cela que le Seigneur nous enseigne. Alléluia. Je ne pensais pas faire encore plus d'allusion sur ça comme ça. Ça concerne les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Autre premièrement, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Verset 5, hypocrite. Autre premièrement, vous entendez, premièrement, s'il y a un mouvement de péché, en, vis-à-vis du péché, un premier mouvement que tu dois faire, en tout premier lieu, on le fait vers qui? Vers soi-même. Tu es ceci, tu es cela, tu as fait ça, tu es ceci. Je n'ai jamais été, je n'ai jamais été. Bien-aimé, si tu n'as pas péché dans un domaine, tu as péché dans un autre. Alors, n'oublie pas ton domaine pour ne pointer que le domaine de l'autre. Est-ce que tout le monde est adultère? Non. Mais celui qui n'est pas adultère ne peut pas dire qu'il n'est pas ivrogne. Et celui qui n'est pas ivrogne ne peut pas dire qu'il n'est pas corrupteur. Et celui qui n'est pas corrupteur ne peut pas dire qu'il est avorteur. Et celui qui n'est pas avorteur ne peut pas dire qu'il est menteur. Et celui qui n'est pas menteur ne peut pas dire qu'il est fourbe, hypocrite, sous quelque forme que ce soit. Traitons le péché durement, mais commençons par nous-mêmes. Oui, là ça ne se dit pas amen. Vous attendez la partie où je vais vous dire les choses, là vous dire amen. Voilà, ça ne se dit pas amen. Traitons durement le péché, en commençant par moi-même. Je ne commence pas par l'autre. Merci Seigneur. Jusque-là, ça va? Très bien. Dans l'étude des péchés des autres, nous retiendrons, notez maintenant les sous-points qu'il y a dans cette étude, parce que nous devons sectionner ça pour que nous sachions où nous allons. Dans l'étude du péché des autres, nous aurons la classification des péchés. Dans l'étude des péchés des autres, nous verrons la classification des péchés, nous verrons la fréquence du pardon, et là, ça va chauffer. Ça y est dans la Bible, mais beaucoup de gens, c'est pour la première fois qu'ils entendront ça. Nous verrons la classification des péchés, tout ça où? Dans l'étude des péchés des autres. Nous verrons la classification du péché, nous verrons la fréquence du pardon, et nous toucherons aussi les péchés volontaires. Parce qu'on en parle trop, beaucoup, les péchés volontaires. Alors, la première grande pensée que nous avons dans ça, nous trouvons la classification des péchés. Église du Seigneur, vous êtes là? Vous écrivez? D'accord. La classification du péché dans ces messages ne sera pas pour nous citer les péchés grands et profonds que nous devons éviter et les péchés moindres que nous pouvons tolérer. Ça, c'est la compréhension de plusieurs personnes. Les hommes ont sectionné les péchés selon leur état de grand ou de bénin. C'est pourquoi vous direz, moi, je ne pêche pas vraiment. Ben, je suis humain, ce n'est qu'un péché bénin, ce n'est qu'un péché, un péché moindre. Ça, ce n'est que des passages. Je ne suis pas un pécheur. Je ne pêche pas comme lui. Je ne suis pas criminel. Je ne suis pas impudique. Je ne suis pas voleur. Naïba, qu'est-ce que ça l'état
pour que quelqu'un soit voleur, il faut qu'il casse la caisse de l'État. Il y en a qui cassent. Mais à notre niveau, les petits blagues qu'on fait là-bas, et puis je mens, et puis je m'en sors parce que j'étais un peu bloqué, j'ai menti un peu, je m'en sors. Un jour, ce n'est qu'un petit stylo, j'étais dans les besoins, j'ai volé, ça c'est rien, le Seigneur lui-même, hein? Le Seigneur lui-même, hein? Comprend. Il y a grand et petit péché. Il y a profond et péché moindre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans la classification des péchés. Parce que devant le Seigneur, il n'y a pas un petit, il n'y a pas un grand péché. Il n'y en a pas. Il y a péché. Et qui dit péché, il y a mort. Vous m'entendez? Qui dit péché, dit il y a mort. Bon, aujourd'hui nous avons un cas de deuil, nous en parlerons encore ce matin. Péché, mort. Les jours que vous en mangerez, vous mourrez. Voilà, c'est attaché. Les jours que vous en mangerez, vous désobéirez, vous mourrez. On ne peut pas pécher sans mourir, d'une manière ou d'une autre. Mais vous allez voir ce que le Seigneur fait de merveilleux. Donc, la classification des péchés dans ce message ne sera pas pour nous citer les péchés grands et profonds que nous devons éviter et les péchés moindres que nous pouvons tolérer. Ça, c'est quand même passable. On tolère. La classification des péchés nous aidera seulement à catégoriser, notez bien, la classification des péchés nous aidera seulement à catégoriser les péchés suivant leur durée et degré d'influence sur l'homme, sur la personne qui les commet. Leur durée et degré d'influence sur la personne qui les commet. Bien aimé, ça c'est très important. On pouvait même s'arrêter là-bas. Vous avez déjà une idée. Le péché a une durée et un degré d'influence sur la personne qui les commet. Vous commettez un péché, le péché, c'est qu'il y aura en durée, en temps, il peut s'étaler en temps, il peut, et puis en degré d'influence sur vous. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si c'est le péché qui triomphe de toi, tu en es esclaves. Bien aimé, vous êtes sérieux comme ça parce que vous m'entendez, vous êtes sérieux aussi avec moi, ou bien vous êtes sérieux comme ça, vous êtes découragé. Alors, pourquoi dans l'église, comment nous allons parler de pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. L'offense signifie quoi? Offense signifie péché. Vous voulez seulement dire, je parle du pardon. On ne parle pas de ce qu'on va pardonner. Vous êtes comment, hein? Et moi, je suis habitué avec vous. Il ne me reste pas beaucoup de temps avec vous. Je dois vous dire tout ce que je sais. Je dois vous dire tout ce qui m'a amené là où je suis. Afin que si vous le suivez comme j'ai suivi celui qui m'a dit ça, vous arriviez où je suis. D'accord? Très bien. La classification des péchés, ou elle nous aidera seulement à faire quoi? À catégoriser les péchés suivant leur durée et degré d'influence sur la personne qui les commet. Quiconque commet le péché, il y aura une durée d'influence et il y aura aussi un degré d'influence. Un degré d'influence. Chez les uns, la durée sera moindre. Chez les autres, la durée sera longue. Chez les uns, le degré sera insignifiant. Chez les autres, le degré sera plus considérable. Mais que ce soit la durée moindre, la durée petite, ou le degré réduit, ou grand, ou long, tout ça, là, le péché lui-même a à son sein le pouvoir de tuer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tuer. très bien. La classification des péchés nous aidera seulement à catégoriser les péchés,
le classement des péchés, la classification des péchés nous aidera seulement, parce que c'est la suite, c'est pourquoi j'ai dit, elle nous aidera seulement à catégoriser les péchés suivant leur degré, non, suivant leur durée et degré d'influence sur la personne qui les commet, qui commet ces péchés. Autrement dit, tous les hommes pêchent, mais tout le monde ne vit pas la même réalité. Alléluia. Ça, c'est bon. J'aimerais que les enfants de Dieu se réjouissent. Ici, dans ce que je vais dire maintenant, là, il n'y a que les enfants de Dieu qui vont se réjouir. Le païen ne va pas se réjouir. Il n'y a que les vrais enfants de Dieu qui vont se réjouir. Alléluia. Car c'est pour cela que nous sommes enfants de Dieu. Autrement dit, tous les hommes pêchent. Mais tout le monde ne vit pas la même réalité. Autrement dit, tout le monde ne vit pas la même durée. Tout le monde ne vit pas non plus le même degré d'influence. Tout le monde ne vit pas la même réalité. Car dans la Bible, nous avons des cas de péché que je vais citer ici. Prenez votre temps, nous allons lire trois textes comme ça. C'est très important. Car, je disais autrement, tous les hommes pêchent. Mais tous ne vivent pas la même réalité. Car on ne peut pas comparer la réalité du péché des géants, c'est lequel péché a conduit au déluge, comparer cela à la réalité du péché d'Abraham ou à la réalité du péché des enfants de Dieu, selon l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 2 verset 1. Ce sont des réalités, je n'ai pris que quelques exemples. Ce sont des réalités valables dans la Bible. Ce sont des cas de péché, mais les réalités n'étaient pas les mêmes. Bien-aimés, vous m'entendez? Les réalités n'étaient pas les mêmes. Péché de la même valeur, c'est le mal de la même valeur. Mais la réalité dans le vécu n'est pas la même, car on ne peut pas comparer les péchés des géants qui ont régné sur la terre à l'Antiquité, comme dit la Bible, et qui ont fait pécher toute la terre, et jusqu'à aller au déluge. On ne peut pas comparer cette réalité-là à la réalité du péché d'Abraham. Le mal est le même, n'est-ce pas? Mais le péché d'Abraham a une autre réalité. On ne peut pas comparer au péché des enfants, selon 1 Jean chapitre 2, le verset 1. Lisons d'abord l'histoire, rapidement, mes amis. On n'a pas assez de temps, mais je dois vous dire quelque chose. Lisons d'abord l'histoire des géants qui étaient sur la terre. Nous sommes dans Genèse chapitre 6, le verset 4 et 5. Il est dit quoi? Genèse chapitre 6. Chapitre combien? Genèse chapitre 6, le verset 4 et 5. Il est dit rapidement, disons. Les géants étaient sur la terre. Notez bien la réalité de leurs péchés, n'est-ce pas? Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu virent que après que les fils des dieux furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Verset 5, tous ensemble. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le résultat était quoi? Je veux les exterminer tous. Et les hommes ont péri par les déluges. Ça, c'est une réalité. Le péché, le péché d'Abraham, tout à l'heure, nous allons en parler. Lisons maintenant le péché d'Abraham. Vous savez que ça, c'était devant qui? Devant Abimelech. Je ne sais pas si vous connaissez ça, on a tellement cité ça. Le péché d'Abraham, c'est Genèse chapitre 20. Lisons. Parce que beaucoup ne connaissent pas. Vous avez sauté du temps. Mais lisons. Genèse, là nous avons lu le péché des géants, n'est-ce pas? La réalité du péché des géants, la réalité du péché d'Abraham et la réalité du péché des enfants, n'est-ce pas? Genèse chapitre 20, le verset 5 à 7. Il est dit, Genèse chapitre 20, le verset 5 à 7. Vous êtes avec moi? Il est dit quoi? Ça, c'est Abimelech qui parle. Abraham venait de mentir que Sarah était sa sœur. Et ça fait des dégâts, ça fait l'intervention du Seigneur. Écoutez maintenant. Ne m'a-t-il pas dit que c'est ma sœur? Et elle-même, elle qui? N'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu dit. Il dit quoi? Dieu lui dit en songe. Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Le verset 7, tous ensemble. Maintenant, qui parle de Dieu? Il dit à qui? À Abimelech. Maintenant, rends la femme de cet homme. Lisons à haute voix la partie que je suis. Maintenant, rends la femme de cet homme. Car il est prophète. Il priera pour toi. Et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Vous trouvez ça juste, hein? Ça, c'est la réalité du péché d'Abraham. La réalité du péché des enfants. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. 1 Jean chapitre 2, le verset 1. La réalité du péché des enfants. Car tous pêchent, mais tous ne vivent pas la même réalité. 1 Jean chapitre combien? Chapitre 2, le verset 1. Il est dit, disons ensemble, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Or, il est possible qu'un homme pêche. Donc, et si quelqu'un a péché, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Vous allez me dire que tout ça, c'est la même réalité? Est-ce que c'est le même péché? Oui, c'est le même mal. Les hommes pêchent, Abraham pêche, et puis les enfants de Dieu pêchent. On a la possibilité de pécher. Le péché ne les est pas autorisé. Mais ils ont la possibilité de pécher. Et ils pêchent. Donc, on pêche en tant que païen, nous allons voir ça plus tard. On pêche en tant que païen. On pêche en tant qu'homme de foi. Au début, la loi n'est pas encore là. On pêche aussi en tant que enfant de Dieu. Tous est péché et tout est mal. Mais tous ne vivent pas la même réalité. Enfant de Dieu, si vous grandissez dans cette compréhension des Écritures, vous allez tenir tête sur la terre et vous entrerez au ciel. Parce que sur la terre, ce qui nous fera tenir, c'est la parole que nous connaissons. La Bible dit, nous aussi nous avons parlé, nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé. Un enfant de Dieu qui ne sait pas ce qu'il croit est en danger. Même mal, même péché, même réalité dans le vécu, réalité différente. Nous reviendrons avec ces exemples un peu plus loin les dimanches qui vont suivre. Tous ces cas, notez bien, tous ces cas de péché montrent que, ça c'est une partie importante, notez, tous ces cas de péché, vous en souvenez ces cas de péché, n'est-ce pas? Le péché des géants, le péché d'Abraham et le péché des enfants. Tous ces cas de péché montrent que, virgule, parti d'Abraham pour aboutir à Jésus, la foi a modifié la réalité du péché. Alléluia! La foi a modifié la réalité du péché. Si le mal est le même, si le péché est le même, il n'y a pas un péché grand, un péché petit. Si le péché est le même mal, mais la réalité change comment? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, quiconque pêche doit connaître la même réalité. Mais depuis que Abraham a cru et qu'il a été appelé, qu'il a accédé à la foi qui devait aboutir à Jésus, qui a abouti à Jésus, la foi a modifié la réalité du péché, et ça c'est à l'avantage des enfants de Dieu. La foi a modifié la réalité dans le vécu, la réalité du péché. Alors qu'Abraham, alors que La phrase commence un peu plus tôt.
Il est dit ceci. À cause de leurs péchés, les géants ont péri tous par les déluges. Alors qu'Abraham a été défendu et honoré devant Abimelech. Comment comprendre ça? Ceux qui se sont noyés, ils étaient aussi pécheurs. Ils étaient noyés. Et ils sont morts. Et il y en a qui meurent aujourd'hui à cause du péché. Mais Abraham qui pêche n'est pas noyé. Il est même défendu et honoré. Je ne sais pas si vous comprenez. Abimelech, c'est un roi. Abraham est un chef de famille. Il a 318 personnes qu'il peut armer pour aller à la guerre. C'est qu'il a plusieurs personnes. Il peut avoir à son actif près de 2000 personnes qui sont avec lui. Ils ont leurs femmes, ils ont leurs enfants. Près de 2000 personnes qui sont avec lui. Abimelech est un roi de son royaume. Il a les anciens du royaume et les autres cadres. Et Abimelech est en crise. Tout le royaume est interpellé. Dieu puissant, il vient de parler, les très hauts, l'être suprême, parce que c'est comme ça qu'on doit l'appeler, parce qu'ils ne le connaissent pas comme tel. Ils sont des idolâtres. Le Dieu suprême, l'être suprême, a parlé à notre roi. Il l'a menacé qu'il devait mourir. Pourquoi? Pour cause, notre roi a fait enlever une jolie femme parmi les visiteurs qui passent dans notre pays. Il l'a fait enlever. Mais notre roi n'a pas pu la toucher. Il dit, mais comment? Il a dit que c'est ça, c'est bon. Mais je peux la prendre, mais je ne la prends pas. Je laisse d'abord. Et puis toute la nuit passe. Et la nuit, l'être suprême vient parler à notre roi. Il lui dit que cette femme que tu as prise là, elle a un mari. Elle a un mari, tu as mal fait, tu risques de mourir. Mais maintenant, il parle avec l'être suprême. Notre roi lui a dit, mais tu ne peux pas nous dire qu'elle a un mari, parce que lui-même nous a dit que c'est ma sœur. Et la sœur elle-même, elle a dit que c'est mon frère. C'est en public, tout le monde sait. Donc, si je l'avais pris, j'ai raison. Mais depuis que je l'ai amené à la maison, je ne l'ai pas touché. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a empêché. J'avais des doutes à moi. Je ne l'ai pas touché. Donc, j'ai agi avec un cœur pur, avec des mains propres. Dieu dit, oui, tu as agi avec des mains propres, des cœurs purs. C'est pourquoi moi-même, j'étais empêché. Cette phrase-là, je l'aime dans la prière. J'ai dit, Seigneur, toi, tu peux empêcher un païen de pécher contre toi, et c'est moi que tu laisserais pécher comme Dieu. Non. C'est que Dieu est capable d'empêcher un homme, non, de pécher contre lui. Alléluia. Parce qu'il a empêché même le païen. Empêche-moi, Seigneur, tu as le moyen de mettre les choses en place, m'empêcher de pécher contre toi. Dieu dit, c'est moi qui t'ai empêché de pécher contre moi parce que tu agis bien. Mais je te dis que cet homme-là, c'est un prophète. Non, cet homme-là est menteur. Abimelech, c'est un menteur. Abimelech dit, c'est un menteur parce qu'il nous a cherché des problèmes. C'est lui qui nous a dit que c'est ma soeur. Et sa soeur, la femme en question, est une menteuse. Sarah aussi a menti beaucoup dans la vie. Je vous assure, si c'était seulement au nom de la sanctification qui donne les enfants, Sarah n'aurait jamais. Même quand il parle avec l'Éternel comme ça, Sarah rit. L'Éternel dit, Sarah rit. Sarah dit, non, je n'ai pas ri. L'Éternel dit, et pourtant, c'est vrai. Sarah discute avec l'Éternel. Dit, je n'ai pas ri, tu as ri, je n'ai pas ri, tu as ri. Et puis comme ça, on va aussi. Ah, Ndego, nous n'allons pas attendre la sanctification pour ton soir. Nous attendons la miséricorde. La compassion de Dieu pour avoir. Si c'est la sanctification elle-même, comme le prédicateur de la sanctification personnelle là, elle doit exister dans la vie de l'enfant de Dieu. Mais compter sur ça, tu ne sauras pas. Nous allons le voir avec la classification du péché au fur et à mesure que nous avançons. Vous allez voir. Suivez bien cette étude, s'il vous plaît. Dieu m'a parlé. Sarah a menti plusieurs fois. Sarah ment encore. Oui, c'est mon frère. Abraham dit, c'est mon frère. C'est ma soeur. Les vaillants soldats d'Abraham sont là, ils connaissent. Notre chef là vient de mentir. Abimelech avec ses anciens sont là. Ils savent que cet homme qui est devant nous, malgré ces gens qui sont avec lui, ils ont menti. Quelle honte dans les camps. Les chefs ont menti en public et puis Bakangir. On l'a découvert qu'il est menteur. Il y a là le péché d'Abraham. Un mensonge, c'est un La Bible dit que le diable est le père des mensonges. C'est lui le père de tous les menteurs. Abraham marche avec les tout-puissants, mais il est sous l'influence de la peur et le diable le suit et il ment. Nous allons voir ça. Bien, je ne veux pas insister là-bas parce que nous allons voir avec dans les détails de la classification. Vous allez voir, c'est merveilleux. Abraham ment. La honte est dans les camps. Sarah est là avec toute la famille. Et puis Abraham est là avec tous les grands. Abimelech est là. Vous voyez un peu là, c'est une réunion des nations, entre guillemets. Pendant ce temps, Abimelech, Dieu lui dit, cet homme, c'est un prophète. Comment? En tout cas, ce que je sache, à moins que, je ne sais pas quel type de prophète, à moins que tu dises, toi, c'est qui parle là, tu es un menteur. Comment les tout-puissants là-bas peuvent avoir un prophète, hein? Menteur. Si déjà ton prophète est menteur comme ça, et toi-même tu es, comment? Dieu n'entre pas dans les histoires. Il a menti, il n'a pas menti, il a dit, Dieu n'entre même pas là. Il va lui dire, prends cette femme, rends-la à son mari, c'est un prophète, et qu'il prie pour toi. En public, les gens d'Abraham regardent, les gens d'Abimelech regardent. Abimelech a raison, Abraham a tort. Mais Abimelech est obligé de demander à Abraham, je ne sais pas avec qui tu marches, mais il m'a dit que tu es prophète. Je ne sais pas quel type de prophète, tu es un menteur, bon, je ne peux pas aller très loin, c'est toi qui nous as cherché ça. Mais il m'a dit que tu pries pour moi. Comment? Un homme qui pêche, il doit mourir. C'est lui qui a besoin de la prière. C'est Abimelech qui devait prier pour Abraham. Parce que lui agit avec les mains innocentes, avec un cœur pur. Abraham a agi avec les mains sales, avec le cœur impur. Mais Dieu dit, pour le moment ici Abimelech, si tu veux vivre, il est menteur, c'est ton problème. Mais pour le moment, va, qu'il prie pour toi et tu vives. S'il ne prie pas pour toi, tu ne vivras pas. Où est la réalité du péché de ceux qui ont péché dans le passé qui sont morts? Nous ne comprenons pas, frère. Au lieu de mourir, il est même honoré. Honoré. Même les gens qui sont avec lui. C'est Dieu qui marche avec nous. C'est le Dieu qui est saint. Là, nous pouvions vraiment penser que notre père sera. Mais notre père, Abraham confie. Abimelech se prosterne. Oh, le Dieu très haut. Vraiment, tu connais toi-même que vraiment, oh Dieu. Il est faible. Il est brisé. Mais s'il ne prie pas quelqu'un, meurt. Il est faible et il est brisé. Mais s'il ne prie pas, quelqu'un va mourir, lui et tout ce qui lui appartient. Donc tous les camps d'Abimelech sait que notre chef a vu. L'être là lui a dit que cet homme doit prier. S'il ne prie pas, notre chef meurt et nous tous nous mourrons. La vie de nous tous ici, des hommes bien, dépendre d'un pécheur à haute voix comme ça, c'est quoi ça? Le problème c'est quoi? C'est qu'entre Abimelech et Abraham, quelqu'un est dans la foi, quelqu'un d'autre n'est pas dans la foi. Abimelech sacrifie aux idoles, Abraham sacrifie à l'Éternel. Celui qui sacrifie à l'Éternel, son péché est déjà arrangé dans les sacrifices. Il ne peut vous pas être mis sur le pied d'égalité avec celui qui sacrifie aux idoles. Le Seigneur dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, afin que vous sachiez qui je suis. Écoutez, bien-aimés, nous ne pouvons pas être deux enfants de Dieu. Non, nous ne pouvons pas être deux personnes, l'une enfant de Dieu et l'autre païenne, et que nos fautes à nous soient connues au monde de la même manière. Que nous mourions de la même manière. Non! Pourquoi le chrétien a déjà un sacrifice qui a ôté son péché que les hommes ne voient pas? Abimelech ne voit pas qu'Abraham a déjà sacrifié plusieurs fois. C'est pourquoi il lui a dit, sacrifie-moi ton fils plus tard. C'est qu'il avait la vie du sacrifice. La foi a modifié la réalité du péché sur la terre. L'homme qui pêche mourra. Mais là, par la foi, l'homme pêche. Il est brisé par le mal, mais il ne meurt pas. Il est même honoré. Nous allons le voir plus tard. Il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Abraham devait être dans la confusion la plus totale. Mais au lieu d'être dans la confusion, il est même honoré, prié pour lui, en public, et le voilà qui priait. Pourquoi? La foi est intervenue là. Si quelqu'un n'a pas la foi, le péché aura l'emprise sur lui de la même manière que sur tous les hommes, en les conduisant au déluge de la vie. Mais celui qui a accédé à la foi, le péché sera traité autrement. Dis à ton voisin, autrement. Mon péché sera traité autrement. Mais avant ça, il faut d'abord que la foi intervienne dans le sacrifice suprême de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que le Seigneur ne frappe pas, le Seigneur ne frappe pas une personne deux fois pour la même cause. Je suis pécheur, oh Seigneur, reçois ce sacrifice. Abimelech n'est pas là. En présence des gens, on découvre, oh, tu es pécheur, oui. Avant que vous sachiez, je suis pécheur, je l'avais déjà fait. Mais ce sacrifice-là, il n'y en a pas. Abimelech aussi sacrifie. Son Dieu ne le défend pas. Mais le Dieu d'Abraham, qui a sacrifié, le Dieu le défend. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Seigneur, ce n'est pas que le péché d'Abraham n'est pas mortel. Il est mortel. Il pouvait l'emporter. Mais le péché d'Abraham a changé, a été travaillé au niveau de la foi. Oh Seigneur, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés afin que personne ne se glorifie. Mais c'est par la grâce au moyen de la foi. La foi pèse le péché. La foi couvre le péché. La foi défend le pécheur. La foi met le pécheur derrière afin de le présenter comme n'ayant jamais péché. Dieu dit, ce que tu dis de pécheur, là, j'ai déjà traité ça depuis longtemps. Pour le moment, c'est un prophète. Va qu'il prie pour toi. Bien-aimé, je vais dire à un enfant de Dieu que quand tu es vraiment enfant de Dieu et que tu es dans la foi dans le Seigneur, ton péché, le Seigneur l'a pris. Regrette de l'avoir commis. Regrette d'avoir fait je ne sais pas quoi. Mais ne reste pas là-bas pour y habiter. Que le diable vienne te dire, tu vas mourir. Tu as péché, non? Le diable vient te dire, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu as péché, non? Écoute la voix de l'Esprit au-dedans de toi. L'Esprit te dira, dira à ton esprit que tu es enfant de Dieu et que ton péché a déjà été cloué à la croix de Golgotha. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Si Dieu t'appelle prophète, qui t'appellera pécheur? Si Dieu t'appelle prophète, qui t'appellera pécheur? Relève la tête! Lève-toi là où tu es, enfant de Dieu, tu as péché avant-hier, mais si tu es vraiment enfant de Dieu, tu sais que tu as regretté ça, et tu as pleuré amèrement. Maintenant, lève la tête, marche, car Dieu t'appelle prophète. Si quelqu'un dans la salle, il te pointe du doigt, c'est son problème. Si tu ne pries pas pour lui, il mourra. Si quelqu'un dans la salle veut parler de toi n'importe comment, c'est ton problème. Si quelqu'un veut te mettre derrière, qu'il te mette derrière. Ta bénédiction passera par toi. Tu es faible, mais tu dois prier pour lui. Si tu ne pries pas pour lui, et vous aussi, soyez humble d'aller les chercher qu'il prie pour vous. Soyez humble. Soyez humble d'aller les chercher. Si tu dis que c'est un menteur, tu mourras toi et ta famille. La foi modifie la réalité du péché dans le vécu. C'est pourquoi je ne veux pas être en dehors de Jésus. Alléluia. Même en matière, même en matière de l'héritage, on va terminer par ce principe. Même en matière de l'héritage, même en matière de l'héritage dans les limites du Très-Haut, le péché réduira la jouissance de plusieurs. Vous savez que le péché diminue la jouissance de l'héritage. Quand vous êtes dans le péché, même l'héritage, vous n'en avez pas la joie. Le péché réduit la jouissance. Cette semaine, nous avons dit que c'est la semaine de la jouissance de l'héritage. Même en matière de l'héritage dans les limites du Très-Haut, le péché réduira la jouissance de plusieurs, comme en Égypte. mais ça ne sera pas la même réalité chez tout le monde. En matière de l'héritage, le péché va gangréner plusieurs personnes. Ils ne pourront pas se réjouir de leur héritage. Mais ça ne sera pas la même réalité chez tout le monde. En Égypte, c'était le cas. Dans la même Égypte, les Hébreux ont vécu une autre réalité que les Égyptiens. Dans la même Égypte, le péché a connu la modification des réalités dans la vie des enfants de Dieu. Dieu descend en Égypte, Pharaon est méchant, Pharaon est occultiste, il se proclame Dieu, Pharaon est orgueilleux, il est au-dessus de tout. Pharaon est en train de dominer le peuple de Dieu qui était venu pour fuir la famine. Maintenant, ils ont grandi, ils sont nombreux, et puis ils doivent sortir. Pharaon les utilise comme ses ouvriers. Et puis Pharaon ne veut plus les laisser passer. À cause de ce péché de Pharaon, tout le monde qui est en Égypte doit souffrir. Dieu dit, l'Égypte va souffrir. Il commence les plaies. Quand Dieu donne les plaies, les enfants d'Israël, quand ils étaient venus, Joseph leur a donné le pays de Goshen. La contrée de Goshen dans le pays d'Égypte, la contrée de Goshen. Pour qu'ils habitent là-bas, ils avaient des troupeaux, là-bas il y avait la verdure, ils avaient des troupeaux, c'était bien. Habiter là-bas, Pharaon a accepté, ils habitent là-bas. Avec tout ce qu'ils étaient, 70 personnes et puis d'autres, et puis ils commencent à grandir et ils sont devenus nombreux. Au moment où Dieu se fâche contre le Pharaon et contre l'Égypte, qu'il veut frapper en Égypte, l'Égypte n'est pas en dehors des limites de l'Éternel. Il est dans son pays tel que l'Éternel le lui a donné. Israël est étranger dans la maison de l'Égypte, au pays de l'Égypte. Dieu veut détruire, veut paralyser l'Égypte avec des plaies. Plusieurs plaies vont tomber, notamment les mouches, les ténèbres et autres grêles qui vont tomber sur l'Égypte. La Bible dit, et c'est clair, les enfants de l'Égypte, avec leur blé, avec leur prospérité, ils vont subir des ténèbres sur la terre. Des ténèbres sur toute la terre de l'Égypte. La Bible dit que c'était des ténèbres épaisses. On peut les toucher. Imaginez un peu que tu touches les ténèbres. Les noirs, tu touches ça comme du brouillard. C'était ténébreux. De telle sorte que quand quelqu'un est à un mètre, hein, tu ne peux pas le voir. Un mètre, mais tu ne le vois pas. Mais la Bible est prête de dire que les ténèbres étaient dans toute l'Égypte, sauf à Goshen. À Goshen, le soleil est là, la lumière est là, les bergers vont et puis reviennent et tout le monde fonctionne. On entend dire non, et vous là-bas, oh non, mais chez nous, on va, on vient. Mais chez nous, mais pourquoi nous on ne voit pas? Mais nous, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Les ténèbres dans toute l'Égypte, chez eux à la maison. Mais chez les étrangers qui sont chez eux, il y a la lumière. Ah, dis. Pharaon ne comprend pas. Et puis, il va y avoir des grêles, la même chose. Il va y avoir aussi des mouches, la même chose. Au sujet des mouches, il est dit, Exode, chapitre 8, verset 18, il est dit, « Mais, en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite hein, mon peuple. » Quand est-ce qu'ils sont devenus ton peuple? C'est par la foi au travers d'Abraham. Mon peuple. À Goshen, à ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouches. Pourquoi? Afin que vous sachiez que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Quel pays? L'Égypte. Je me suis mis vraiment, déjà avec la modification de la réalité du péché par la foi, le péché des enfants, nous avons lu ça. Quand les géants ont péché, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent noyés. Qui les a tués? Dieu, c'est Dieu que nous appelons Père là, les a tués. Quand Abraham pêche, Dieu les défend, parce qu'il est déjà en accord avec lui, les sacrifices se passent déjà, Abraham est déjà pris en charge par la foi. La réalité est différente. Quand les enfants pêchent, il y a une notion qui s'infiltre. Je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si par faiblesse là, il s'arrive par mégarde, tu as péché, ne te torture pas. Nous avons un avocat. L'avocat qui est auprès du Père a commencé à être auprès du Père quand? pour ne pas intercéder pour les géants. L'avocat est auprès du Père quand, bien aimé, Jésus a toujours été auprès du Père, c'est la Trinité. Mais quand il y a un problème et que la foi n'est pas là, meurs, crie comme tu veux. Ces géants ont été noyés dans la mer. Ils criaient. Oh, le Dieu de Noé, oh, vraiment, sauve-nous, maintenant nous croyons. C'était tard, il n'y a pas de foi. Quand il y a la foi, à ce moment, Jésus s'élève. Non pas un exécuteur qui détruit, non pas un juge, mais il s'élève en avocat défenseur. C'est comme l'Éternel défend Abraham devant Abimelech. Jésus s'élève, il défend un enfant de Dieu. Devant Dieu, oui, en réalité, ce qu'il a fait ici, il mérite la mort. Elle mérite la mort. Celui qui passe doit mourir. Mais celle-ci ne peut pas mourir, tu sais toi-même. Regarde son cœur. Elle a pleinement confiance en moi. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé pour lui. Vas-tu faire mourir quelqu'un comme ça? Si tu le fais mourir, ça veut dire que tu me tues moi combien de fois? N'est-ce pas c'est pour lui que j'ai péché? Est-ce que moi j'ai péché? Non. N'est-ce pas pour lui que je suis mort, lui qui a péché? Qui a péché? Oui. Alors, le même péché là pour lequel moi je suis mort, que quelqu'un d'autre meurt encore pour ça, Dieu regarde de quoi ça dit, bon, laissez-la passer. Laissez-la passer. Les enfants de Dieu ont un avocat auprès du Père. Abraham a Dieu lui-même comme avocat, mais les géants n'en ont pas. Laissez les païens mourir à cause du péché. Un enfant de Dieu qui meurt à cause du péché, je ne comprends plus. Quelle est l'intercession de Jésus pour toi, pour que tu meurs? C'est l'intercession de Jésus qui a fait que Pierre est revenu de la mort. Pierre a renié Jésus trois fois. Nous en parlerons dans la suite. Mais il n'est pas mort parce qu'il y avait l'intercession de l'avocat. Et toi, qu'est-ce que tu as? Qui tu as pour que tu puisses mourir à cause de ton péché? Ne me donne pas la raison. Si je n'avance pas, c'est le péché. Si je n'avance pas, c'est l'occultisme de ma famille. Si je n'avance pas, c'est les sorciers de notre maison. Si je n'avance pas, c'est toi qui as un problème. Parce que si tu étais venu à Jésus, tu aurais réglé le problème du péché et tu aurais sorti ta famille de cette situation catastrophique. Le péché aujourd'hui n'est plus un frein pour qui que ce soit d'accéder à l'honneur. Parce que le péché est réglé en matière de la foi. Est-ce que tu m'entends? Merci Seigneur. Nous nous arrêtons là, mais écoutez la suite, comment ça va être? Nous subirons. Nous ne subirons pas tous la même réalité. Il y aura le péché, mais nous ne subirons pas tous la même réalité. Ça dépend de qui a la foi, qui est en Christ et qui ne l'est pas. Bien aimé, si tu n'es pas en Christ, fabrique ta chrétienté. Tu subiras les effets du péché. Mais si tu es véritablement enfant de Dieu, nous ne subirons pas la même réalité. Le Seigneur fera la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et j'ai terminé en disant, il est possible que tu te réjouisses de ton héritage là où les autres gémissent. Ils étaient où? En Égypte. L'Égypte était en train de gémir et était en train de festoyer. Il est possible que le Congo soit malade et reste malade même, devienne agonissant. Mais quelqu'un au Congo en train de se réjouir de son héritage. Car ça ne se déterminera pas au niveau du roi Abimelech, mais c'est au niveau de l'Éternel des armées qui peut donner à un homme de jouir. Tu jouiras de ton héritage. Peu importe celui qui pleure à gauche et à droite. Dieu ne dira pas comme les autres pleurent, toi aussi pleures. Non. Si ton temps de rire arrive, laisse-le pleurer, mais tu trouveras le sourire dans la présence du Seigneur. Il est possible qu'un homme jouisse de son héritage, même là où les autres gémissent. Alors ne regarde pas. Si tout le monde va de l'avant, j'irai de l'avant. Si, comment je vais aller de l'avant si tout le monde ne va pas de l'avant? Toi, tu iras de l'avant parce que tu vas subir la loi de la distinction. Je mettrai la distinction entre ceux qui me servent, ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Dans la suite des temps, nous comprendrons ceci. La classification des péchés nous dit tout simplement que dans le monde, nous rencontrerons les péchés des autres sous plusieurs formes. La classification des péchés nous dit tout simplement que dans le monde, nous rencontrerons le péché de plusieurs personnes. Le péché des autres sous plusieurs formes. Donc, la première forme,
la perdition éternelle, on en parlera. La deuxième forme, une période de faiblesse, on en parlera. La troisième forme, un forfait ponctuel, on en parlera. La classification du péché nous montre tout simplement que dans le monde, nous rencontrerons les péchés des autres sous plusieurs formes. Dont la perdition originelle, originelle, pas originale, originelle, une période de faiblesse et un forfait ponctuel. Toutes ces choses, nous allons en parler. Vous allez voir comment le Seigneur est merveilleux quand il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi aux autres. Comment tu rencontreras le péché des autres? Personne ne peut dans la prière. Merci Seigneur. Voilà, je devais arriver là pour que prochainement nous puissions maintenant avancer avec les trois sous-petits points qui sont importants. Nous les verrons avec l'origine, avec la perdition originelle, avec une période de faiblesse, avec un moment de un forfait ponctuel. Y a-t-il quelqu'un qui a été touché par le message? Tout le monde a été édifié à un niveau ou à un autre. Murmurez quelque chose, dites merci au Seigneur. Mais maintenant, vous avez été touché par le message. Je voudrais que vous puissiez lever la main et même vous lever vous-même là où vous êtes. Qu'est-ce qui vous a touché? Je ne veux plus revenir sur tout ce qui a été dit. Levez la main. Seigneur. Seigneur, notre Dieu. Quel enseignement tu veux nous donner pour nous mûrir, pour nous mûrir. Quel enseignement tu veux nous donner pour nous rendre mûrs de plus en plus. Des jeunes filles, des jeunes garçons, des papas, des mamans, ne comprenaient pas les études, les écritures, et qui sont en train de mourir. Non, le péché, le péché a été modifié. Alléluia. La réalité du péché a été modifiée par l'introduction de la foi. Bien-aimé, accéder à la foi, ça donne une autre. Vous vivrez le péché. Autrement, il y en aura, le péché n'avait pas encore disparu. Mais il ne peut plus ravager tout le monde de la même manière que les anciens étaient ravagés. Parce que la foi a modifié sa réalité. Est-ce que tu as accédé à la foi ou tu seras ravagé par le péché? Veux-tu accéder à Jésus-Christ? Accéder à la foi? Où tu veux être ravagé. Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, qui a été touché, bien-aimé, lève-toi comme les amis. Vous avez été touché, lève-vous là où vous êtes. Je veux prier pour vous, Seigneur. Tu vois ces hommes et les femmes, ces jeunes filles, ces jeunes garçons. Si l'on n'enferme pas comme ça, l'église sera secouée par les vents. Mais quand les enfants de Dieu comprennent que le péché existe, c'est vrai. Mais le péché a été pesé par la foi. Le péché a vu sa réalité être modifiée. Il ne peut plus agir chez tout le monde de la même manière. Il ne peut pas ravager les uns et ravager les autres. Car la foi, l'intervention de la foi est venue, Seigneur, prendre en charge des hommes. Voilà pourquoi des hommes comme Abraham peuvent entrer au ciel et devenir des grands hommes là-bas. Notre Dieu est pourtant passant sur la terre comme des petits garçons, menteurs à gauche, à droite. C'est la foi qui a pris en charge. C'est l'alliance qui a pris en charge. C'est la foi qui a donné cet honneur et la façon de se réjouir. Israël en Égypte n'a pas été, notre Dieu, réduit au silence. Tous ils devaient mourir. Tous ils devaient être massacrés par l'ange exterminateur. C'est pourquoi Dieu dit, je me les suis consacrés. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils étaient candidats à la mort. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils étaient pécheurs dans le pays d'Israël. Mais Dieu les a épargnés par la foi. La foi sauve. La foi en Jésus sauve. La foi en Jésus épargne. La foi en Jésus pardonne. La foi en Jésus prend en charge. Seigneur, merci que des hommes te fassent confiance, qu'ils ne restent pas dans les pratiques mondaines, mais qu'ils accèdent à la foi, et qu'ils accèdent à la foi du cœur, la foi vraie, que Jésus soit maître et sauveur. Alors, ils ne seront plus les mêmes, le péché n'aura plus les mêmes effets sur tout le monde. Merci Seigneur. Oh Jésus, si nous pouvons voir la réalité de la présence de la foi dans nos vies. Béni sois-tu, prends ces hommes et les femmes, purifie, lave, accepte-les dans la foi et accepte-les dans ta présence. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reprenez vos places. Tu bénis ce digne.